17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce grand témoin spécial, comme invité, en fait, c'est un couple terrible. C'est le droit de vote d'un côté et l'élection législative de l'autre. Donc un couple qui est plébiscité, en tout cas par beaucoup de gens, y compris de la diversité. Et l'un de ses brillants représentants, Belkhair Belhadad, qui est avec nous. Merci d'être là, Belkhair.
Bonjour.
Alors, vous êtes député de la première circonscription de la Moselle. Vous avez été élu haut la main en juin 2017. Et là, Vous y retournez. Vous y retournez. Vous êtes député sortant. Vous y retournez avec un bilan. Et qu'est-ce que vous voulez montrer en retournant, en redemandant aux gens de revoter pour vous, sous l'étiquette, bien sûr, de Renaissance Ensemble, majorité présidentielle. C'est le sens de vouloir continuer à représenter des gens pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer, y compris de votre bilan et de vos projets et de votre ambition pour la première circonscription de la Moselle?
Alors, l'objectif premier, l'enjeu premier de cette élection législative, c'est bien entendu de donner une majorité au président de la République pour continuer la transformation de notre pays. On a bien vu que la crise sanitaire a amplifié les inégalités sociales contre lesquelles je me bats depuis de très nombreuses années. Elles se sont accélérées plus rapidement que les réformes que nous avons pu mettre en place sur les questions du pouvoir d'achat, sur les questions de la mise en œuvre des services publics comme les dédoublements des classes dans le cadre de la politique de l'asile ou dans l'éducation de manière générale. Et donc nous avons besoin d'accélérer ces réformes, de les mettre en œuvre sur la question du pouvoir d'achat, sur la transition écologique. Il y a une véritable urgence sur ce volet-là. L'un des sujets prédominants, c'est celui aussi de la question du grand âge et de nos aînés. Nous proposons justement de mettre de créer 50 000 postes d'infirmiers et d'aides-soignants pour accompagner le grand âge et notamment le domiciliaire. Un projet tourné vers la jeunesse pour renforcer par exemple l'enseignement des fondamentaux à l'école. Nous avons commencé sous le mandat précédent par lire, écrire et compter. Nous avons rajouté, je l'ai fait à mon initiative dans le cadre de la loi sport dont j'étais le rapporteur de texte, notamment avec 30 minutes de sport par jour, c'est de faire du lycée professionnel une voie d'excellence, c'est de faire notamment de faire découvrir des métiers grâce à une demi-journée à venir. On a besoin que notre jeunesse soit beaucoup plus à l'écoute et sensible aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Je rencontre beaucoup d'entreprises qui ont du mal à recruter. Donc, pour mettre en œuvre l'ensemble de ces mesures, ces orientations, ces axes stratégiques, nous avons besoin d'une majorité très clair, très très forte. Et moi-même, localement, sur la première circonscription de Moselle, j'ai été à la fois un député très très présent, très actif. J'ai mouillé la chemise sur le terrain pour accompagner à la fois les élus locaux dans leur projet, sur par exemple la création de maisons de santé, ou faire en sorte qu'il n'y ait plus de fermeture de classes au niveau des écoles, ou sur la question de mobilité. De nombreux projets ont eu cours et je les ai accompagnés avec un financement important de la part de l'État. Et donc cette présence sur les terrains qui me caractérise depuis maintenant un certain nombre d'années, je souhaite faire bénéficier de cette expérience-là et bien entendu être extrêmement présent, comme je l'étais sur le premier mandat, à l'Assemblée nationale pour porter un certain nombre de textes au sein de la Commission des affaires sociales. Voilà toute l'ambition qui est la mienne. Pour ce second mandat, si les Français et les Françaises de la première circonscription de Moselle me font confiance.
Alors, Belkhair Belhadad, vous êtes aussi animé par le souci de la cohésion sociale, de la cohésion nationale, de la démocratie locale. Et vous parliez d'Emmanuel Macron à l'instant, qui a fait pas mal de choses en direction de la mémoire. Vous-même, vous êtes président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Beaucoup de débats ont lieu de façon récurrente sur la diversité, sur les stigmatisations de telle ou telle communauté, de telle ou telle religion. Et vous, vous êtes animé par ce souci de rassembler un petit peu l'ensemble des générations dans une communauté de destin. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message, justement, en direction de, d'une région, d'ailleurs la Moselle, qui a beaucoup travaillé et qui est un exemple dans le cadre de la coexistence entre les communautés.
Oui, tout à fait. C'est l'un des enjeux majeurs. On est dans une société qui est assez individualiste et nous avons beaucoup de mal à faire commun et à porter collectivement des projets et à raconter un narratif national qui intègre toutes ces richesses, toutes ces diversités depuis maintenant 30, 40 ans, 50 ans, voire plus.
C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de narratif national. Alors souvent, on entend parler de roman national, roman d'ailleurs dont beaucoup de générations d'immigration de peuplement sont exclues d'un discours officiel, d'une pensée unique.
Oui, tout à fait. Et il est exclu. Alors, on a commencé à travers ce mandat-là à faire en sorte de faire face finalement à cette réalité très complexe de la décolonisation qui a été douloureuse, notamment avec un certain nombre de pays. Je vais notamment évoquer celui de l'Algérie. Et donc, il faut absolument montrer que finalement, les jeunes générations qui sont aujourd'hui, pour la plupart d'entre elles, françaises, intégrées, qui a encore quelques liens avec le pays d'origine, doit faire partie de ce narratif-là, que ces aïeuls se sont battus, par exemple, ici, dans la guerre 1870-71, pour repousser les Prussiens et faire en sorte que Metz puisse ne pas tomber aux mains des Prussiens. Et ça l'a été grâce notamment à de nombreux tirailleurs sénégalais algériens. Donc ce narratif, il est très peu connu, voire pas du tout. Et donc, charge à nous de se faire savoir. Tout comme d'ailleurs, sans parler de mémoire, mais Emmanuel Macron avait fortement incité, avec un travail d'experts, d'historiens, à inciter les maires des 35 000 communes françaises à baptiser un certain nombre de rues au nom de personnalités qui ont marqué aussi notre pays, 400 personnalités je crois.
Rapidement, en une minute, Berhal Belhadad, je rappelle que vous êtes candidat à votre réélection dans la première circonscription de la Moselle, donc vous êtes député, et on aborde l'anniversaire, le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Emmanuel Macron probablement sera invité. Est-ce que vous êtes de ceux qui allaient militer, encourager le président de la République à se rendre en Algérie pour cette commémoration?
Je crois que ce serait un signal extrêmement fort, comme l'ont fait d'ailleurs d'autres présidents de la République, je pense notamment à François Mitterrand dans son époque, ou Jacques Chirac, de consacrer l'un de ses premiers déplacements en Algérie, parce que nous avons une histoire extrêmement forte. À l'Assemblée nationale, nous avons un groupe d'amitié France-Algérie dont je suis le vice-président, et nous faisons en sorte pour que cette amitié se traduise très concrètement par des actions en matière culturelle, en matière d'éducation, en matière économique, et en faisant en sorte d'être une locomotive et de dépasser quelques points un peu nos différences pour aller dans le même sens. Je pense que l'avenir de la France, bien entendu, elle est européenne, mais il est africain également. Et je pense, et moi j'inviterai fortement, de toute manière, notre président de la République à s'y rendre aussi souvent que possible.
Merci beaucoup, Berhal Belhadad. En tout cas, bonne chance pour votre campagne. On aura l'occasion, bien sûr, de se retrouver sur l'antenne et bien sûr de commenter avec vous les résultats du premier tour. En tout cas, à très bientôt et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
À bientôt.
Bonne journée, au revoir.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grands témoins, bien sûr, notre invité, d'un côté le droit de vote, de l'autre côté l'élection législative, ce couple formidable qui fait que la démocratie a un sens, le pouvoir de choisir et le pouvoir de révoquer. Et c'est pas Carl Olive qui est notre invité qui va me démentir. Bonjour Carl Olive.
Bonjour Nasser Khétan, merci pour l'invitation.
Bah, je vous en prie, vous êtes candidat, vous êtes maire de Poissy, candidat dans la 12e circonscription des Yvelines, candidat à la députation, et on vous souhaite plein de choses pour cette candidature. La démocratie, je répétais à l'instant, bon, il y a ce droit de vote pour lequel des gens sont morts, se sont battus, que des gens sur la planète nous envient, et le pouvoir de choisir son élu, et aussi, surtout, on l'oublie souvent, de le révoquer, de lui dire, va-t'en, on choisit quelqu'un d'autre. Ce droit de vote, c'est un bijou, c'est quelque chose qu'il faut préserver, Carl Olive.
Le droit de vote, c'est quelque chose à polir, et vous avez bien raison, cher Nasser Khétan, c'est quelque chose à polir comme un diamant brut. Vous l'avez dit, nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents se sont battus pour que nous ayons le droit de vote. Certains se sont battus pour que les femmes aient le droit de vote ici en France. Donc évidemment, il faut aller voter. Voter rouge, voter noir, voter blanc, voter jaune, peu importe, mais il faut aller voter. Moi, vous savez, je suis un enfant des quartiers. Nous sommes issus d'une famille nombreuse, nous étions 8. Dans ma belle famille, mon papa a fait 42 ans à l'usine Chrysler ici à Poissy et nous avons grandi dans une mixité sociale en lettres majuscules. Moi, je me souviens, dans ma tour de 11 étages à Poissy, à la Coudray, il y avait des Espagnols, des Algériens, des Marocains, des Bretons comme ma petite maman et chacun s'entraidait. La mixité, on la trouvait au pied de l'immeuble. Et c'est aussi ce qui a fait, je crois, la trajectoire qui est la mienne aujourd'hui parce que je n'oublie jamais d'où je viens. Et ce qui me permet d'être toujours à la première personne du pluriel et rarement à la première personne du singulier.
Alors, et Carl Olive, vous êtes quelqu'un de terrain et en même temps, vous aimez la vie, vous êtes engagé, vous avez été journaliste sportif et comme tout journaliste, c'est cette espèce de volonté de restituer la vie des gens, d'être comme une éponge qui s'imbibe un peu de la vie, de la préoccupation des gens et qu'on presse et ces gouttelettes sont restituées soit à travers des articles, à travers la radio et vous voulez continuer à restituer la vie des gens, l'envie des gens de leur quotidien, leur volonté d'éduquer leurs enfants, d'avoir une meilleure vie possible avec la politique. D'où vous vient cette passion, cette envie de faire de la politique ?
Nasser, moi j'ai toujours aimé les gens parce que ma petite maman qui a été orpheline très tôt nous a baigné, irrigué d'amour tout au long de notre vie. Je dis souvent, aimer les gens, ça ne s'apprend pas dans le dictionnaire. Quand on est maire, d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé, Nasser, qu'avec le mot maire, vous pouvez composer le mot aimer. Quand on est maire, notre place, elle est sur le terrain, et certainement pas dans les bureaux. Et moi, je passe ma vie sur le terrain, à rencontrer les gens, à me faire engueuler, à proposer des choses, à échanger, à se nourrir finalement de l'expertise de tout à chacun. Et ça fonctionne. On a été élu en 2014 au premier tour avec 62%. On a été réélu au premier tour en 2020 avec 75%. Je fais pas de politique, comme j'aime à dire. Moi, le matin, je me demande pas si je vais faire une politique de gauche ou une politique de droite. Je me demande si les actions, les décisions, les initiatives que je vais prendre vont être en adéquation avec ce que souhaitent mes administrés s'il y a possible 40 000 habitants et 3 quartiers en politique de la ville, ce qu'on appelle les quartiers populaires. Et c'est ça qui m'intéresse. Et il faut rien refuser. Je pense qu'il faut rendre possible l'impossible. Et c'est la raison pour laquelle je crois pouvoir dire qu'ici, à Poissy, on a réussi de belles choses et que Poissy redevient le premier bassin d'emploi de la vallée de Seine dans les Yvelines.
Alors, Carl Olive, on sent bien qu'il y a un décalage entre ce qu'on voit sur les chaînes d'infos, certains médias, etc., qui sont dans des discours, des pensées uniques, des débats qui sont absolument abracadabrants. Et puis une réalité, et ça on le sent avec les élus de terrain, une réalité de tous les jours, où des commerçants, des mères de famille, des enseignants, qui eux vivent autre chose. Et il y a un décalage entre à la fois ce quotidien des gens qui sont dans une demande de crèche, de logement, de mieux vivre, comme vous l'avez rappelé, et puis une espèce de débat comme ça intellectuel, et on sent que ces deux choses-là ne se rencontrent jamais. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'à côté du faire savoir où on est inondé en termes de communication et qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont pris de pastel, qu'on a l'impression que le lire un message sur un réseau social, que ce soit Twitter, sur Facebook, on a l'impression que c'est finalement la Bible, c'est absolument pas le cas. Je pense qu'il faut redescendre sur terre, il faut remettre, comme on dit généralement dans le sport, l'église au milieu du village, pour qu'on puisse être encore une fois en phase avec nos administrés. Voyez-vous, lundi, j'ai organisé la 111e réunion publique depuis 2014 dans les quartiers, dans un quartier populaire de Poissy qui s'appelle Saint-Exupéry, pour annoncer aux habitants de Saint-Exupéry que nous allions massivement investir avec des bailleurs sociaux pour permettre à ce quartier, comme l'ensemble des quartiers de la ville de Poissy, de pouvoir être dans un meilleur vivre ensemble et être fier d'être Pissiaquet. Pissiaquet, c'est les habitants de Poissy. Elle est là, la réalité du terrain. Et vous avez raison, moi je me souviens pendant l'épidémie, je disais sur les plateaux télé où je suis invité, mais il faut que les politiques arrêtent de se prendre pour les médecins et que les médecins arrêtent de se prendre pour les politiques. Coluche disait quelque chose de très juste, et moi j'adore Coluche, j'ai grandi avec lui, mais je crois que vous êtes pareil, Nasser. Coluche disait, quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Ben, c'est la vérité. Il faut aller sur le terrain, et c'est sur le terrain qu'on se nourrit de réflexion, et quand on est sur le terrain, c'est un sérum de vérité.
Alors, Caroline, on peut pas terminer ce petit entretien sans parler de sport. C'est c'est votre passion, une de vos passions, c'est un de vos amours, bien sûr, depuis toujours. Et ce sport que vous portez, vous engagez à l'excellence dans le sport, à faire monter des gens des quartiers, des jeunes, en tout cas, pour s'affirmer, pour exister. Et le sport, pour vous, c'est une façon de réconcilier et de mettre aussi tout le monde un petit peu sur la même ligne de départ, parce qu'on parle beaucoup de l'égalité des chances, de l'équité des chances, etc. Et pour vous, le sport, c'est une magnifique machine à fabriquer à la fois de l'identité, de la communauté d'existence et en même temps de l'égalité des chances.
Nasser, on dit souvent que le sport, c'est l'école de la vie. Bah, mettons effectivement le sport au cœur de l'instruction de l'éducation nationale, au cœur de l'instruction de la citoyenneté. Le sport, c'est un catalyseur social transversal. Le sport, il rassemble. Le sport, il divise pas. Le sport, c'est pas politique. Le sport, c'est un salut. On dit souvent « mens sana in corpore sano » en latin, un esprit sain dans un corps sain. Et moi, j'ai une trajectoire qui fait que depuis que je suis môme, mais comme mes quatre frères, on a toujours fait du sport. Ma sœur Brigitte Henriquet est aujourd'hui présidente du comité olympique. Elle y est parvenue parce qu'elle venait du sport. Et moi aujourd'hui, si modestement, comme je le disais, ça se passe très bien ici dans ma très belle ville de Poissy, où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai du sang de la ville de Poissy qui coule dans mes veines, c'est aussi parce que je viens du sport. Et quand on vient du sport, on est imbibé aux règles du jeu. On est dans le jeu ou on est en dehors du jeu. Et on se trompe jamais de camp. Oui, le sport doit être une grande cause nationale du prochain quinquennat d'Emmanuel Macron.
Caroline, merci d'être intervenu. Vous êtes candidat dans la 12e circonscription des Yvelines sur l'étiquette Ensemble, majorité présidentielle. On vous souhaite le meilleur dans cette candidature. À très bientôt et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci BFM.
À bientôt.
Les grands témoins revient dans un instant. Les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours dans les grands témoins avec ce couple merveilleux que représenté par le droit de vote et l'élection législative, ce couple pour lequel des gens s'engagent, passionnés, engagés et enragés, des gens comme vous, Rachid Mokrad, merci d'être parmi nous.
Je suis très heureux d'être là.
Voilà, vous êtes responsable et militant de l'écologie au centre. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est que l'écologie au centre, centre de quoi, centre pour quoi faire. Et vous êtes d'abord animé par la flamme de l'engagement politique. Vous considérez quand même que le droit de vote et que le fait de pouvoir choisir son représentant ou de le révoquer, c'est quelque chose qui est consubstantiel de la démocratie.
Ben écoutez, d'abord, en deux mots, l'écologie au centre, c'est une écologie qui est dépolluée des idéologies. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, au-delà de la gauche et de la droite, on voit bien aujourd'hui une classe politicienne irresponsable, démagogique, qui en réalité, pour la majorité d'entre eux, sont là pour des salaires, des indemnités, et qui font leur petite salade politicienne. Nous, on peut plus l'accepter. C'est démagogue. Quand on voit aujourd'hui le niveau de dégâts que ça produit. Je donne l'exemple. Je donne l'exemple de simplement un individu qui est quand même sacralisé par des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire par des millions, qui a trahi sa famille politique. Je parle de Nicolas Sarkozy. Sans état d'âme, sans pitié. Eh bien, moi, je dis, ça me donne envie de vomir. Bon. Et nous, à l'écologie au centre, on rassemble des citoyens.
On ne va pas parler des absents. Absolument. Et des gens qui ne sont pas autour de la table pour se défendre. Mmh. Parlons de vous et parlons de vos engagements et de ce que vous représentez. Alors, l'écologie au centre...
Des citoyens.
Et vous êtes candidat dans combien de circonscriptions aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est candidat sur 230 circonscriptions en France. Et nous avons rassemblé des citoyens, des citoyennes, des écologistes indépendants, des régionalistes qui ont décidé d'additionner leurs forces et leurs énergies pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière.
Mais... Vous serez une force d'appoint dans le cadre de duel, de triangulaire ou de quadrangulaire.
Alors, notre objectif, c'est de nous donner un pouvoir d'agir et un pouvoir d'influence. Il y a dans cette classe politique, on ne va pas quand même jeter la pierre à tout le monde, il y a quand même des démocrates et des républicains, quelle que soit leur sensibilité, à gauche comme à droite, des gens avec qui on pourra travailler. Et notre objectif, c'est d'asseoir un mouvement qui se donne un pouvoir d'agir et un pouvoir d'influence, parce que notre avenir, celui de nos enfants, on ne peut pas le déléguer, celui des générations futures, on ne peut pas le déléguer à des élus, à des politiques qui, malheureusement, depuis 40 ans, ont montré leur irresponsabilité, leur comportement irresponsable, qui fait qu'aujourd'hui, 80% des électeurs ne vont plus voter. Et donc, ces stratégies...
On pense qu'il y aura à peu près 50% d'abstention pour ces élections-là. C'est le chiffre qui est donné.
Je pense qu'il y aura entre 50 et 60% d'abstention.
Donc encore plus.
Et bien sûr que...
Alors, dans l'écologie au centre, beaucoup de gens issus de l'immigration, beaucoup de la diversité. Quel dénominateur commun entre la diversité et l'écologie? Qu'est-ce qu'il y a de commun?
Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. D'abord, moi, ce mot diversité me débecte un peu. Alors, je suis d'abord un citoyen français... Mais la République ne m'a jamais demandé de tuer ma part de berbérité, puisque je suis d'origine berbère, m'a jamais demandé de tuer ma part d'islamité, ne m'a jamais demandé cela. Donc, je suis un citoyen français, avec sa sensibilité, ses origines, qui mène un combat. Et aujourd'hui, effectivement, la France réelle, c'est-à-dire cette France riche et diverse, la parité, le seul mouvement politique qui respecte cette France réelle, cette France républicaine, cette France riche et diverse. Je préfère dire cela que dire le mot diversité, qui est une manipulation de notre classe politique. Alors, et qui instrumentalise ce
dans
mot
votre programme, pour nous enfermer. Dans votre programme, vos candidats sont porteurs d'un message, sont porteurs d'un programme de revendication. Quels sont les deux, trois propositions phares de vos candidats que vous avez envie de mettre en avant pour faire en sorte que les gens votent pour vous? Quelles sont les... Je suppose que vous avez des choses en commun.
Alors, je représente aussi une sensibilité au sein de l'écologie au centre. Et donc, pour moi, l'écologie est au centre de tous les enjeux, de tous les défis à relever. La première des propositions sur lesquelles on va travailler, une de celles, c'est liée à la crise éthique et morale. Nous devons mettre l'éthique de la responsabilité au cœur de notre projet de société. Ça veut dire que...
Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de façon très prosaïque, très terre-à-terre, quand la personne va être dans son isoloir, vous allez lui dire, moi, je suis pour l'éthique, etc.
Non.
Et le gars, il va
Une grande loi sur la moralisation de la vie politique. Il y a 400 métiers à qui on demande aujourd'hui un casier judiciaire. Est-ce que vous trouvez normal qu'un député, qu'un conseiller général. Il parte aux élections sans qu'on exige de lui un casier judiciaire. Voilà la première loi qu'il faut d'abord voter si on veut restaurer un climat de confiance dans notre pays. Or, aujourd'hui, la défiance, elle est là, parce que les gens pensent que les politiques, c'est des magouilleurs, etc. Alors qu'on ait le courage de voter une grande loi. Et nous allons travailler dessus. Nous avons un comité d'experts qui va travailler, qui va faire des propositions, et nous allons avoir notre puissance d'agir, puissance d'influence, pour obliger les politiques à fonder là-dessus. Et bien sûr que le deuxième combat que nous devons avoir, c'est avoir une vision. Avoir une vision, c'est arrêter d'être dans la vision à courte vue. Il y a à l'horizon une crise climatique. Par rapport à ça, c'est l'affaire de tous, l'écologie. On doit changer, modifier les comportements. Et d'abord, la première, c'est l'affaire de l'État. L'État doit mettre en place des dispositifs, des mesures, et pas des communications, des effets d'annonce, comme ils font pour les accords de Paris, où ils font ces grandes embrassades, mais en réalité, ils nous font un bras d'honneur, parce qu'en réalité, eh bien, rien n'est fait pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, nous sommes en train de travailler à réfléchir sur un certain nombre de propositions.
Alors, pour le quotidien des gens, qu'est-ce que vous proposez ? Sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'enseignement, sur l'éducation des enfants, qu'est-ce que vous proposez ?
Écoutez, l'éducation à la santé et la prévention, nous devons être exemplaires. Je le vois par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, on pratique une politique de la maladie. Mais imaginez ces milliers de mamans qui aujourd'hui sont atteintes de diabète, qui sont de maladies cardiovasculaires, etc. Si demain on fait un vrai programme d'action sur la prévention à la santé, eh bien il y a un certain nombre de produits qui sont très néfastes pour la santé. Si on mène des campagnes déjà dès le jeune âge et en direction des familles et des populations, eh bien d'abord, on va réduire l'endettement et le déficit de l'État, et on va amener une meilleure qualité de vie. Or, aujourd'hui, les lobbies de la grande distribution, tous ces lobbies aujourd'hui, ils sont en train de conditionner les gens, les citoyens, à consommer un maximum pour produire de la maladie. On trouve ça très, très pervers. Il faut qu'on ait le courage de dire qu'à un moment donné, on n'est pas dans la logique à dire il faut pas de croissance économique ou décroissance. Aujourd'hui, nous sommes face à l'irréversible. Et face à l'irréversible, eh ben il faut bâtir des solutions.
L'écologie au centre, vous tirez la sonnette d'alarme.
Absolument.
Vous appelez à une moralisation de la vie politique.
Absolument.
Vous agitez un chiffon rouge par rapport au réchauffement climatique, et sur le quotidien des gens, vous appelez à une plus grande responsabilité et à mettre des moyens importants au service des programmes régaliens que sont la santé, l'éducation. Donc pour terminer, je pense que vous avez aussi une parité dans vos candidats. Quelles sont les régions où vous êtes, que vous souhaiteriez remporter, et quel discours vis-à-vis à la fois de l'extrême droite, de la majorité présidentielle, et puis sur des discours comme la laïcité, qui sont un petit peu des débats récurrents qu'on entend ici et là.
Nous, on veut parler de la question de la laïcité, de l'instrumentalisation que les uns et les autres en font, c'est tout simplement scandaleux. On voit aujourd'hui que, au lieu de promouvoir l'unité et la cohésion de notre pays, eh bien, des politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, et je ne les citerai pas parce que je suis tenté quand même aussi, comme ils le font, de donner des noms. Moi, je pense que aujourd'hui, cette question du pouvoir d'agir, du pouvoir d'influence, un mouvement qui aujourd'hui pèse 5% au niveau national comme le nôtre, eh bien, on a un objectif pour les 10 ans qui viennent, c'est de peser 10% et d'être l'axe central de celui qui fera et défera ceux qui aujourd'hui manipulent, instrumentalisent, conditionnent les esprits pour créer la division et la diversion. Nous voulons le grand apaisement pour notre pays. Un grand apaisement, eh bien, passe par un travail de fond pour les années qui viennent.
Rachid Moncrane, je rappelle que vous êtes un militant acharné, engagé de l'écologie au centre. Vous êtes un des responsables. Vous êtes présent dans plus de 200 circonscriptions en France. Vous êtes un aiguillon, un poil à gratter. Et vous voulez peser à l'avenir et faire en sorte que tous les discours qu'on entend ici et là, que vous considérez comme démagogiques, soient réellement suivis des faits. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Et je dirais, pour finir, je dis, aujourd'hui, j'ai 61 ans, une partie de ma vie est derrière moi, mon devoir c'est de transmettre, et si on veut véritablement faire du dégagisme civique et citoyen, eh bien nous sommes donnés comme ambition de faire élire 1000 élus aux prochaines élections municipales 2026.
On se reverra voilà. D'ici là. Merci beaucoup
on est pas
d'avoir accepté
sur notre
cette
nombril.
Invitation, les grands témoins, le droit de vote, les élections législatives, une histoire qui continue.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.